Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis vraiment, véritablement honoré par votre pasteur qui m'a sollicité à ouvrir la parole de Dieu ce matin. Voilà, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis effectivement le pasteur Michel Milia. Je suis avec mon épouse Léonie et nos enfants sont restés sur le camp. Nous avons deux filles, Emmanuela qui a 15 ans et la petite Élise qui a bientôt 13 ans. Voilà, nous exerçons dans le ministère au centre de la France et nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, son amour envers nous. Amen. Alors, quand le frère m'a demandé et m'a sollicité, je me suis posé la question, comme chaque pasteur fait, qu'est-ce que tu veux leur dire, Seigneur, ce matin ? Vous êtes le peuple de Dieu ? Toutes les tranches d'âge sont représentées et représentatives. Mais j'ai appris une chose avec le Seigneur, c'est qu'il y a encore de la valeur et de la force dans les cheveux blancs. Vous ne dites pas amen ? Nous sommes, nous, une église très expressive, où nous vivons les charismes, nous vivons la guérison, nous vivons en ce moment depuis plusieurs années une croissance, non pas à cause du pasteur, mais à cause du mouvement de l'esprit qui se meut chaque dimanche au milieu de l'église. Et nous sommes une église où nous donnons cette culture à apprendre à répondre au Seigneur. Nous disons souvent, Seigneur, écoute nos prières, mais il faut aussi dire, Seigneur, réponds à ma prière. Parce que Dieu nous écoute, il sait même d'avance tout ce que nous allons lui demander. Mais je crois fondamentalement et véritablement, bien-aimé, que Dieu veut répondre à nos prières. Amen. Voilà, le thème que nous allons voir en quelques instants, il ne sera pas exhaustif, il ne sera pas creusé. C'est une exhortation pour chacun d'entre nous et si vous êtes de passage, je crois aussi que cela va vous faire du bien. C'est quelle église pour demain ? Bien-aimés, vous qui êtes aussi de passage, que ce soit les gens du voyage, que ce soit les sédentaires, que ce soit ceux qui ont pris racine, pied ici sur Gap ou sur Embrun ou sur Veynes, qu'importe, le missionnaire en Afrique, qu'importe. Il y a une multitude aujourd'hui d'églises, de façons de faire, de concevoir l'église, mais je crois fondamentalement qu'il faut rester sur ce que le Maître, sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous pouvons avoir une église avant-gardiste, évolutionniste. Nous pouvons avoir toutes sortes aujourd'hui de one-man show, de boules et toutes sortes de choses qui existent aujourd'hui dans nos églises. Mais cela ne remplacera jamais l'enseignement du Maître et la puissance du Saint-Esprit. Non, vous n'y croyez pas. Donnez-moi un grand amen. Voilà, je vais commencer par ce premier texte, Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 18, et ensuite nous basculerons dans les Actes des Apôtres, qui me semble pour moi être le fondement de l'Église, que ce soit l'Église primitive, mais que ce soit l'Église du 21e siècle, que ce soit l'Église, si le Seigneur devait tarder, du 22, du 23e siècle. Je crois qu'il y a des fondements dans lequel ou sur lequel ou avec lequel nous ne devrions jamais toucher, si nous désirons voir la gloire de Dieu, alors, bien-aimés, dans la mesure où chacun d'entre nous va contribuer, va mettre sa simple pierre à l'édifice, nous verrons ensemble, et quel que soit le lieu, la gloire de Dieu. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je leur ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors, quelle église voulons-nous ? une église où le pasteur devrait tout faire, où le pasteur serait en quelque part comme un couteau suisse. Il serait devant, derrière, il aurait toutes sortes de fonctions. Et les bien-aimés qui viendraient le vendredi à la réunion de prière, le dimanche au culte, le lundi à l'intercession, penseraient que simplement l'homme de Dieu a reçu tout. Il est capable, rien que par son ministère, de porter tous les bien-aimés sur son dos et de faire avancer l'Église. Si nous avons une vision comme celle-ci, alors tôt ou tard, ou le pasteur, ou votre pasteur, je me permets, chers frères et chers confrères, d'utiliser votre nom, alors vous trouverez à un moment donné votre pasteur allongé sur son canapé et plus capable de se lever. Nous ne sommes pas des couteaux suisses, mais selon la parole de Dieu, lorsque Jésus envoya les disciples, il les envoya pour faire d'autres disciples. Afin justement, quand le vent de l'esprit allait souffler, et nous allons voir ça tout à l'heure, la constitution de l'Église allait apparaître, mais pour que chacun, chaque bien-aimé, depuis l'enfant, depuis la maman enceinte qui prie chaque jour, « Seigneur, bénis ma fille », que plus tard elle devienne une servante de Dieu, que déjà dans la mamelle de la maman, quelque chose du ciel lui soit donné, quelque chose du ciel lui soit attribué, de telle manière que lorsqu'elle va marcher sur le chemin de la vie et qu'elle va rencontrer Christ ou que Christ la rencontre, elle puisse devenir elle-même disciple. C'est l'Église. C'est l'Église. Avec, comme je le disais, les cheveux blancs, la force de la jeunesse, les couples, mais qui est en marche pour faire d'autres disciples, afin que l'Église puisse être ce merveilleux ensemble que Christ désire que vous deveniez. Oui, ils sont partis et le Seigneur les a envoyés pour faire des disciples dans toutes les nations. Il dira au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous n'allons pas ce matin parler de tout l'enseignement de Jésus. Il nous faudrait des années et des années prendre chaque mot, prendre chaque orientation dans notre vie, la sainteté, la pureté, le renoncement, le pardon et bien d'autres éléments que j'oublie ce matin. Il nous faudrait véritablement creuser les saintes écritures. Mais j'aimerais simplement rappeler ce matin l'une ou la forme de l'Église que Jésus inspire encore aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une Église qui forme et qui enfante et qui fait des disciples. Le mot grec, c'est mathétès. Sur le plan historique, le mot mathétès faisait référence à un élève qui s'attache à son maître dans son enseignement. Bien-aimé, je ne sais pas combien de mois, combien d'années, combien de jours de conversion vous avez. Je sais, pour être aussi un enfant de Dieu comme vous, que la vie ne nous fait pas de cadeaux, que la vie parfois nous ébauche, que la vie parfois nous écorche. Mais néanmoins, nous restons des disciples du Seigneur. Nous restons des hommes et des femmes, plutôt, qui ont levé un jour la main et qui a dit, Jésus, je te suivrai et je te servirai. Il y a de moins en moins d'amen. C'est l'image d'un peintre célèbre, je pourrais prendre Picasso, qui met son élève à côté et qui lui enseigne toute la rhétorie, tout l'art de peindre de la même façon que lui. Et je crois que cette image est parlante. Si Jésus, effectivement, est venu sur la terre des vivants, il a marché d'une façon, il a parlé d'une façon, il a donné sa vie afin que chacun d'entre nous, nous puissions suivre son enseignement. Non pas, et avec tout le respect que j'ai pour l'Église de Jésus-Christ, car je sais à quel prix il l'a racheté, mais non pas simplement le dimanche matin, nous faire juste un coucou et repartir ensuite. Il y a une stratégie dans le disciple. Il y a une stratégie et une vision dans le cœur de Dieu pour son Église, pour qu'un jour, cette même Église, même si le Seigneur devait tarder, elle se multiplie, elle se renouvelle. L'Église est un lieu de vie, non à cause de nous, mais à cause de la vie Zoé, de la vie de Christ qu'il fait descendre sur nous. Le bien-aimé qui me remplace ce matin à 83 ans, c'est notre ancien. Il parcourt des milliers de kilomètres en voiture, faisant les visites, cherchant la brebis égarée, soignant celles qui sont écorchées. Car il a compris le jour où il a donné sa vie, bien plus de 60 ans en arrière en Algérie, que l'appel d'amour que le Seigneur lui avait donné était là, non pas simplement pour une vie éternelle, mais pour un service pour celui qui avait donné sa vie pour lui. Bien-aimé, nous sommes là pour servir, pour devenir ses disciples, dans la mesure où Dieu nous a placés, que ce soit à la maison, que ce soit sur le lieu de travail. Bien-aimés, vous qui avez, en quelque part, on va dire, être arrivé à la retraite. Oui, une retraite de la société. Mais un jour, j'étais à la NPE du Seigneur et je n'ai pas vu le mot, ni chômage, ni retraité. Vous ne dites plus amen ? Donnez-moi un encouragement ce matin. Donnez-moi un bon encouragement. Lorsque nous avons pris l'église de Châteauroux, on m'a dit, Michel, tu ne pourras littéralement pas percer dans cette ville. L'église était, excusez-moi l'expression, je ne l'aime pas beaucoup, vieillissante. Peu de jeunes. On m'a dit, tu n'auras jamais de jeûne, littéralement. Nous étions venus, mon épouse et moi, après 12 ans passés dans l'Est de la France, et j'avais fait cette prière au Seigneur, Seigneur, je viens me reposer, et après je reprendrai, une fois que je serai redynamisé, je viendrai, je ferai ce que tu me demandes de faire. Mais à partir du premier jour où nous avons mis les pieds dans l'église de Châteauroux, nous avons connu la croissance. Donc il n'y avait pas de repos. Et je disais à Dieu, mais comment ça se fait, Seigneur ? Tu as vu tous ces temps que nous avons passés, toute l'énergie à travers la France et l'Europe que nous avons donnée pour toi. Mais le disciple n'est pas là pour parler en quelque part et réclamer en quelque part son bien-être. Le disciple suit son maître, le disciple suit celui qui connaît le chemin. Et bien aimé, c'est dans la marche que le Seigneur renouvelle nos forces. C'est pendant qu'encore nous avons les capacités qu'il nous utilise et qu'il nous bénit. Et depuis maintenant, nous allons dans quelques jours faire 5 ans, l'Église a doublé. Ceux qui nous ont dit que nous n'aurions jamais de jeunes, nous avons eu 42 jeunes étudiants, des Américaines, Hollandais, Chinoises, et toutes sortes de nationalités guyanaises, congolaises. La réalité de ce que l'homme peut dire est un fait, mais ce que Dieu fait, Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, rien, absolument rien, ne lui est impossible. Excusez-moi, j'ai pris du temps. Je vais aller plus loin. Le mot enseignement, c'est le mot didakolos, qui en vue d'acquérir une connaissance à la fois théorique, mais aussi pratique d'un disciple ou d'une discipline. C'est ce que Jésus a enseigné. Maintenant, voyons très rapidement, car je sais que je vous ai déjà pris beaucoup de temps. Dans Actes des Apôtres, nous allons survoler 4 points. Vous connaissez tout cela. Je ne suis là simplement que pour rappeler des réalités spirituelles dont vous connaissez la portée, mais que je crois que le Seigneur veut rappeler premièrement à moi-même, mais aussi à chacun d'entre vous. Acte 2, à partir du verset 42. Je vais le lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. » J'aimerais m'arrêter, bien-aimé. Et si vous pouviez, comme moi, fermer les yeux quelques secondes et imaginez-vous, dimanche prochain, 3000 nouvelles personnes à l'église. Pensez-vous que votre pasteur et son épouse et tous les leaders ici seraient suffisants pour les emmener à les suivre dans la réalité de ce que Christ veut pour eux? Nous avons une connaissance. Alors je sais qu'il ne fait pas force et autorité parfois dans les assemblées de Dieu. C'est le pasteur Carlos Anacondia en Argentine. Et Carlos Anacondia nous a dit ceci quand ils ont connu le réveil. Il ne faisait que l'évangélisation et les âmes venaient tous les jours. C'est une église qui est passée environ de 200 membres à plus de 2000 et quelques membres aujourd'hui. C'est toujours une église influente dans laquelle les paralytiques se lèvent, les miracles sont là dans une réalité visuelle pour chacun d'entre nous. Si nous étions là, vous verriez le dimanche, chaque dimanche, des guérisons, des miracles, parce que Jésus n'a pas changé. Mais il nous a dit ceci. Il a dit qu'avec le staff et l'équipe, que nous étions tellement affairés à prêcher l'évangile, à parler de l'amour de Jésus, de sa résurrection, des guérisons qu'il était capable de faire, que quand les bien-aimés venaient et ils se tournaient, ils ont omis de faire des disciples et les gens se sont perdus. Et je crois à l'importance d'une église qui a un regard pour faire des disciples. Si l'Église devait augmenter, et je crois de tout mon cœur qu'elle va augmenter, car c'est le souhait, c'est le désir de notre Seigneur, ça ne passera pas sans vous. J'ai entendu 5 amen. Ça ne passera pas sans moi. Ça ne passera pas sans votre pasteur. Mais pierre vivante que vous êtes, ça ne passera pas sans vous. J'aimerais vous dire, comprenez bien cette expression, oui, Jésus a besoin de vous. Il pourrait le faire tout seul, mais il veut le faire avec vous. Continuons cette lecture. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, excusez-moi. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, comme ce matin, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient leurs biens plutôt en partageant le produit en tous, avec tous. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quatre fondements rapidement, je ne vais pas m'étaler, quatre fondements rapidement sur l'Église primitive, mais qui est encore valable aujourd'hui. Nous avons la joie de voyager entre l'Amérique, l'Afrique et bien nombre de continents, la Suisse, la Hollande et tout cela, et on voit partout, dans chaque Église, où des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, excusez-moi cette expression parce que je parle du couple pastoral, mettre en pratique, croient que la Bible, ce vieux livre, est encore le fondement de la réussite et d'un mouvement de l'esprit selon Christ, alors obtiennent les mêmes résultats. Quatre fondements. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné ? Jésus sauve. C'est le plus grand des miracles. Si tu es là ce matin, c'est le plus grand des miracles. C'est que ton nom est inscrit dans le livre de vie et qu'un jour, comme moi, nous nous réjouirons au ciel et nous serons comment nous avons été connus de la part de Jésus. Et là-haut, nous serons dans la félicité à tout jamais. Ne considère pas au bobo que tu as sur la terre des vivants. Considère, comme disait le pasteur tout à l'heure, lève ton regard, croise le regard tout à nouveau de Jésus, que ton cœur batte à l'unisson du cœur du Père, et tu verras que les souffrances ici-bas sont si peu de choses face à la gloire à venir. Il y a 4 mois, j'ai fait un AVC, j'étais sur le fil du rasoir, j'allais littéralement mourir. Mais je rends grâce à Dieu. Avec vos prières, avec la communion fraternelle du mouvement des assemblées de Dieu qui se sont mis à intercéder pour ma vie, le Seigneur m'a relevé. Mais lorsque j'étais à l'hôpital, je n'étais pas en dépit, je n'étais pas en train de pleurer. Je disais à Dieu, chaque jour de ma vie, j'ai répété cette phrase, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. » Alors un jour, un frère m'a pris et m'a dit, « Pasteur, il ne faut pas que vous disiez ça. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais ne pensez-vous pas que la mort de Jésus à la croix est quelque chose de dur ? Ne pensez-vous pas que le Fils éternel, le Fils de Dieu, celui qui s'est incarné dans un être humain, qui a connu la faim, qui a connu la soif, qui a connu la chaleur, qui a connu les douleurs et qui est venu mourir pour ma vie, afin que ma vie ne périsse pas pour l'éternité dans les flammes de l'enfer, ne croyez-vous pas que cela nécessite en tout cas un engagement de ma part pour le servir jusqu'à la fin de ma vie ? Mais pour ma vie, transpose-le pour ta vie. Transpose-le pour ta vie. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, il revient. Mais les apôtres avaient aussi un message, c'était sur la résurrection de Christ. Si Jésus est véritablement ressuscité ce matin, tu peux t'attendre à recevoir de lui. Ne dis pas, ça fait 30 ans qu'on prie pour moi. Oui, peut-être 30 ans et la dernière prière et l'exaucement de ta prière se fait. Souvent, c'est la longueur du timing qui nous fait abandonner. Mais je crois qu'il faut faire comme cette petite femme qui est partie voir le juge unique. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, à lui demander de répondre à son besoin. Et Jésus explique à la fin, il dit, « Vous qui êtes mes enfants, ne pensez-vous pas que le Père céleste répondra favorablement si vous persévérez dans vos prières ?» À la croix, Jésus, dans Jean chapitre 19, verset 30, « Tout est accompli. » Jésus a dit dans Marc 10, 45, qu'il était venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de tous. Marc 10, 45, vous pouvez contrôler ce passage. Ce que Jésus voulait dire, c'est que son royaume, il allait le déléguer à des hommes, à des femmes, à des enfants, à des jeunes, pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi participer à la construction, à l'extension du royaume ici-bas. Amen. Oh, alors je vais étayer ce que je dis. En Inde, ce sont des enfants. Alors malgré que l'Inde est touchée en ce moment, mais nous avons des rapports, nous avons des amis en Inde. Et en Inde, les enfants prient et les miracles s'opèrent. Les enfants louent, chantent en langue, prophétisent et les choses s'établissent. Leurs parents se convertissent, leurs amis se convertissent. Car le Seigneur n'a pas changé. Il cherche des hommes, des femmes, des cœurs disposés dans lesquels il va déverser sa gloire et il va répandre son amour ici-bas. Le Seigneur guérit aujourd'hui. Dans Marc 16, verset 20, le Seigneur, ce même Seigneur qui emmena les disciples à faire d'autres disciples, dira ceci. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus ne change pas. Nous avons été peut-être les privilégiés ces 10 dernières années de dizaines et de dizaines de miracles, de guérisons, de choses extraordinaires. En France, alors je le dis, j'aimerais tellement beaucoup plus, mais à l'étranger, des choses glorieuses. Il nous est arrivé dans une campagne d'évangélisation au Congo de voir 7 aveugles. Une femme est arrivée alors qu'elle devait se faire couper la jambe. Elle arrive à l'hôpital, elle entend cette voix qui dit « Des serviteurs de Dieu sont venus prêcher mon évangile. » Et cet évangile est un évangile de guérison. Et un combat s'est engagé dans son cœur parce que le Seigneur lui disait « Si tu vas à la campagne, je te guérirai. Si tu vas à la campagne, je te guérirai. Si tu vas à la campagne, je te guérirai. » Alors cette femme avait un combat dans son cœur, mais elle a pris la décision de venir. Et à l'instant où elle est arrivée sur le champ, sa jambe qui devait être opérée a été guérie. à 17h, bien-aimés, elle dansait sur l'estrade. Oh, vous ne dites pas amen ? C'est parce que nous vivons tellement peu de choses en Europe. J'étais invité au Burkina Faso à une convention nationale où il y avait le frère, le président des Assemblées de Dieu des États-Unis qui prêchait l'Évangile. Nous avons vu les miracles et les guérisons instantanément de nos yeux. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus baptise du Saint-Esprit. Alors que nous étions à la colo, nous avons eu plus d'une dizaine de baptêmes du Saint-Esprit. Avec des petits de 14 ans, remplis. Et vous savez ce qui m'a étonné, et je rendais grâce à Dieu. C'est pour certains de ces petits, ils avaient tellement de souffrances dans leur cœur, des cœurs tellement piétinés déjà par la vie. Mais lorsque le feu de Dieu est descendu sur eux, une transformation du visage, et on a vu de ces petits se lever et aller prier pour leurs amis et voir le baptême du Saint-Esprit s'établir sur les uns et les autres. Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Et nous le savons, un jour il reviendra et toi et moi, nous serons enlevés, nous partirons à la rencontre de celui qui nous a tant aimés et il nous fera du bien. Amen. Non, dites amen. Vous savez, moi je suis supporter du Paris Saint-Germain et quand je suis chez moi et que je regarde le match, il y a du bruit. Il y a du bruit. Alors je ne dis pas systématiquement qu'à l'église il faut qu'il y ait du bruit, mais je crois que notre Seigneur est plus digne qu'un match entre Paris et l'OM. Sa reconnaissance est plus grande. Notre amour devait être plus important. Mais excusez-moi, l'expression de notre joie par rapport à ce qu'il fait dans nos vies, par rapport à ce qu'il est capable de faire dans tes enfants, dans tes petits-enfants et sur la postérité de tes enfants, alors nécessite, oui, un applaudissement, une acclamation à celui qui tient toutes choses entre ses mains. Il y a des bien-aimés qui étaient à la colo ici avec nous, ils pourront vous confirmer. Un petit était lié par la pornographie, il cherchait le baptême du Saint-Esprit. Et quand mon épouse est arrivée, elle lui a dit, mais il y a quelque chose qui bloque. Tu dois libérer, tu dois dire des choses avant que le Seigneur vienne te baptiser. Quand au moment où il a abandonné son dernier péché, le feu de Dieu l'a transpercé. Le feu de Dieu l'a transpercé. Quand il a téléphoné à sa maman, il a dit « Maman, j'ai été baptisé du Saint-Esprit ». Vous savez ce qu'a répondu la maman ? Elle a dit « Attends, je vais m'arrêter sur le côté. » Étonné de ce que Dieu fait. Étonné que notre Seigneur n'a toujours pas changé. Mais j'aimerais te dire ce matin, il n'a pas changé pour ta vie, il n'a pas changé pour ton foyer, il n'a pas changé pour tes enfants, il n'a pas changé pour tes affaires, il n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et son onction, sa puissance n'a pas changé. La communion fraternelle, excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps, je m'arrêterai quand même dans 7 minutes, je n'irai pas plus loin. La communion fraternelle, nous sous-estimons la communion fraternelle. Le Seigneur m'a montré à travers bien des passages des Écritures, mais à travers une réalité des enfants de Dieu, que la communion fraternelle produisait une faveur particulière. Là où il y a des problématiques, lorsque nous sommes ensemble et que nous nous aiguisons ensemble, lorsque nous produisons l'amour ensemble, alors parfois on n'a même pas besoin de prier. Nous pensons à quelque chose et Dieu nous exauce. Vous allez me dire, mais pasteur, vous avez trouvé ça où ? Moi je l'ai trouvé dans le psaume 133. À qui il est bon, à qui il est doux, à qui il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alors bien sûr, ensuite il nous est parlé de l'huile, de l'onction, de la puissance, de la faveur, de la manifestation, de la grâce de Dieu. Mais le dernier verset nous dit, c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction. C'est là, c'est quand je suis avec vous, c'est quand je suis parmi vous, quand nous sommes ensemble et que nous produisons ce que Dieu aspire, désire, ce que Jésus désire que son Église produise, alors le feu de Dieu et les prières, même les plus secrètes, même les plus intimes parfois, sont exaucées. Amen. Alors qu'un jour j'étais dans un avion, je rentrais des Antilles, et puis j'avais pris je prends toujours une deuxième classe, c'est pour vous dire comment Dieu nous connaît parfaitement, bien-aimés. Je pensais, je disais, mais j'aimerais tellement visiter la cabine du pilote et voir comment ça se passe. Et puis, j'ai oublié cela. Et quelques instants après, on a décollé. Et puis, une ravissante steward est arrivée. Elle a dit, voilà, exceptionnellement, aujourd'hui, le capitaine voudrait choisir quelqu'un dans l'appareil afin de lui faire visiter le cockpit. Cette demoiselle déhanchant dans les couloirs, venant à côté de moi, disant, monsieur, vous avez été choisi. Une prière du cœur, non proclamée, juste une pensée. Mais Dieu est capable d'exaucer ce matin tes pensées. Il est capable. Ne le limite pas, ne l'enferme pas, mais vis cette vie pleine chrétienne, vis cette dimension. Et tu verras que parfois, même les choses les plus insignifiantes au fond de ton cœur, il est capable de te les donner. Je vais dire Amen pour vous. Amen. Nous avons accueilli quasiment tous les missionnaires. Ils nous ont raconté des histoires plus invraisemblables les unes que les autres. Ou des fois, nous sommes partis nous coucher et on se disait, est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Permettez-moi de répondre, oui, c'est vrai, car Jésus-Christ n'a pas changé. La communion fraternelle, ensemble, dans la louange, dans l'adoration, tous ceux, dit le verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Alors bien sûr, maintenant, chacun d'entre nous avons notre maison, chacun d'entre nous avons notre appartement, mais il est bon de se souvenir que l'Église est un lieu où nous apportons notre contribution afin que justement l'œuvre de Dieu puisse perdurer dans ce que le Seigneur montre, dans ce que le Seigneur dit et dans la vision qu'il accorde à ses serviteurs. 1 Corinthiens, vous le connaissez, chapitre 13, maintenant donc de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Et comment confronter l'amour, bien-aimé ? C'est à travers la communion fraternelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que nous arrivons tous d'horizons différents, tous nous avons un background différent, une conception de vie différente, et le miracle de Jésus, c'est de nous avoir tous mis ensemble. Et on a appris, comme dira Paul dans une de ses épîtres, à nous pardonner mutuellement lorsque les diamants que nous sommes se frottent entre eux, mais c'est pour que notre Seigneur puisse polir, puisse tailler le bijou que tu es. Amen. La fraction du pain, la Sainte Cène que nous avons prise pour nous rappeler, je vais passer vite, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 34, nous rappeler ce que Christ a fait, accompli pour nous à la croix, pour nous donner l'unité de l'esprit du corps de Christ, nous souvenir de cette œuvre extraordinaire. Des gens sont morts pour d'autres personnes, mais cela n'a pas apporté le salut. Cela n'a pas changé la face du monde, mais un homme, le Fils de Dieu, est venu mourir pour nous et la face du monde, excusez-moi, a changé. Louis Armstrong a dit, ce n'est pas tant qu'un homme a marché sur la lune, mais c'est qu'un homme qui était Dieu a marché sur la terre. Et depuis ce jour, nous le savons, l'Église, les disciples de Jésus sont la lumière de ce monde afin que d'autres qui ne connaissent pas Christ, qui vivent dans les ténèbres, puisse rencontrer celui qui est capable seul de leur donner une destinée. Amen. À 8 ans, je vais finir, je vais conclure, pasteur, je n'irai pas plus loin. Mon rêve à moi, c'était devenir un gangster. Et j'y ai appliqué ma vie. À 10 ans, je fumais des cigarettes. À 11 ans, je sniffais de la coke, de l'héro. J'ai shooté, j'ai été dans tous les plus grands parcs que vous connaissez, la Hollande, l'Espagne. je vais taire les noms de ces stars avec qui je faisais la fête et qui étaient aussi des gros trafiquants. Mais à 22 ans, quand l'amour de Jésus est venu me bouleverser, quand Jésus, dans une petite église évangélique zigane, m'a tendu la main, une voix, alors que je sortais de la voiture de mes parents, j'avais pris une ligne d'héroïne grande comme cela, une voix s'est fait entendre clairement, « Michel, donne-moi ton cœur, je suis le seul à te changer ta vie et à te donner une destinée. » Tapant sur le dos d'une petite femme qui était là avec son voile, je dis « Une voix me parle à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ?» Une voix, elle me dit « Tais-toi, c'est Jésus. » Refermant les yeux, en priant, en criant à ce Dieu, « Seigneur, si tu existes, fais quelque chose. Seigneur, si tu existes, fais quelque chose. » Cette même voix me disant « Donne-moi ta vie, car je suis le seul à pouvoir changer ta vie. » Ma mère était devant, je dis à ma mère, une voix me parle, elle me dit « C'est Jésus !» Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas fait une grande prière. J'ai dit « Jésus, si tu es vraiment le Dieu de ma mère et que tu es capable de transformer ma vie, je te la donne et je ne la reprends pas. » Et à partir de ce moment-là, bien-aimé, ces dizaines d'années de drogue, en quelques mois, j'étais sevré, j'étais libéré, j'étais délivré. La cigarette, tout ce que je buvais, tout ce qui me tenait lié, toutes ces chaînes étaient tombées. Et un an plus tard, je partais à l'école biblique. Bien-aimés, ce que je vais vous dire par cela, continuez à persévérer si vous avez des bien-aimés, des enfants qui sont loin du Seigneur. Jésus a la même autorité et a la même puissance pour les ramener. Je conclus, je finis. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'aurais aimé ouvrir cette parenthèse dans les dons spirituels. Trois sortes de dons dont l'Église a besoin tout à nouveau d'être équipée. Dons d'inspiration, dons de révélation, dons de puissance. Nous utilisons bien souvent dans toutes nos églises, quasiment en France, que très peu de dons. Les dons, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie. Mais où sont les dons de puissance? J'en ai besoin. Je mets l'anathème sur personne. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit veut le répandre. Dites amen. Parce que si on lit le texte, il dit qu'il veut les donner, mais selon sa volonté. Mais il veut les donner. Il n'est pas réservé simplement qu'aux serviteurs. Mon frère, ma sœur, je t'invite vraiment à chercher Dieu afin que les charismes, les dons puissent aussi devenir ta réalité. Et le dernier point que j'aurais voulu aimer aborder avec vous et développer un peu, c'est l'aspect, il nous est dit, les prières. Un jour, un homme de Dieu a dit ceci, « Dieu fait tout par la prière, il ne fait rien sans elle. » Aucun mouvement n'est apparu du Saint-Esprit comme cela. C'est parce que des hommes et des femmes ont préalablement prié avant. Alors je vous invite ce matin, véritablement, quelle église voulons-nous avoir demain? Je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée que vous désirez, quel que soit le lieu où vous êtes placé, quel que soit le champ missionnaire que Dieu vous a mis. On en a visité des champs missionnaires. Mais nous avons vu que l'Esprit de Dieu n'avait pas changé. Conversion, baptême du Saint-Esprit, miracle, guérison, qui atteste le stempel, comme je l'appelle, de Dieu, la marque de celui qui est ressuscité et qui descend pour permettre à son Église, comme dirait l'apôtre Paul, d'être une Église qui marche dans la victoire. Amen. Difficulté, mais dans la victoire. Combat, mais jamais abandonné. Pleurs et souffrances, mais toujours réparés. Parce que celui qui nous aime est présent au milieu de nous. Seigneur, nous te remercions pour ce matin. Pardon si j'étais maladroit, si mes mots n'ont pas été justes, mais ma prière, c'est que tu visites ton peuple, que l'onction devienne une réalité journalière, Seigneur, que cette église devienne comme un feu dans la région. Seigneur, et tout à nouveau, que des signes, des prodiges et des miracles venant de ta part s'établissent au nom de Jésus. Et que celui qui se croit le plus faible au milieu de cette assemblée, Seigneur, que tu le rendes fort, utile, disciple de Jésus, dans le nom du Christ, je t'ai prié ce matin. Bénis tous nos bien-aimés, ceux de passage. Et Seigneur, manifeste-toi dans la guérison divine. Manifeste-toi dans tes réponses, Seigneur, qu'ils attendent. Au nom du Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.